C'est pas le 116, mais il est pas mal celui-là aussi. C'est le 13. Psaume de David. Le psaume 13. Et quelque part, ça s'emboîte bien avec ce qu'on vient d'entendre. Psaume 13. Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut et je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Connaissez ce chant « Moi, j'ai confiance en ta bonté » ? Ouais, c'est l'ancienne génération aussi qui va connaître ce chant. Voilà, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Finalement, ce qu'il est dit dans ce psaume, je crois qu'on l'a tous dit certainement un jour, plus ou moins, mais combien de fois avons-nous entendu « je suis seul, je suis seul, je suis seul, j'ai des tas de problèmes, j'ai des tas de difficultés, personne ne s'occupe de moi, personne ne s'intéresse à moi ». Alors ça fait du bien d'entendre des témoignages qui nous rappellent que Dieu guérit encore aujourd'hui et que Dieu est capable de faire des choses exceptionnelles. Quand vous lisez ce psaume et si vous prenez le temps de le relire à la maison tranquillement, peut-être que vous ressentirez ce que l'on ressent, ce que j'ai ressenti en lisant ce psaume, une espèce d'émotion, de trouble aussi. On comprend un homme qui est perturbé et une espèce d'angoisse qui saisit cet homme David parce qu'il est déstabilisé. Il y a des choses qui le surprennent, il y a des choses qu'il n'accepte pas quelque part, mais qu'il ne comprend pas surtout. D'ailleurs, c'est plus difficile d'accepter des choses que l'on ne comprend pas. Quand on a compris pourquoi, bon, même si la pilule est difficile à avaler, on peut se dire, voilà, ça paraît légitime, mais quand on ne comprend pas. Et on a l'impression que David, lui, ne comprend pas ce qui lui arrive. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Mon ennemi s'élève contre moi, j'ai des soucis dans mon âme, j'ai l'impression que tu te caches, j'ai l'impression que tu m'oublies, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien de plus terrible que cela, avoir le sentiment qu'on est seul, qui plus est, il nous arrive quelque chose et on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi ça vient. C'est très difficile quand on ne comprend pas pourquoi Dieu ne nous répond pas, et c'est encore plus difficile lorsqu'on ne comprend pas pourquoi ça doit durer aussi longtemps, aussi longtemps. Une épreuve est toujours trop longue, n'est-ce pas ? Que ça dure un quart d'heure ou que ça dure 3 mois, c'est toujours trop long, hein ? Toujours trop long. Hein ? Quand on lit ces témoignages dans le Nouveau Testament, je pense précisément à 2 cas. Un homme malade depuis 18 ans, une femme malade depuis 12 ans. Vous vous rendez compte ? C'est un quart de la vie, pour certains un tiers de la vie. C'est énorme quand même. Et on se dit, ben voilà, malade, 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 tous les jours, se suivent et se ressemblent, et il n'y aura pas d'évolution, ça ne changera pas. C'est difficile d'accepter ainsi la souffrance, la maladie. Quand ça dure depuis si longtemps, on a un sentiment d'abandon. Un jour ou l'autre, on se sent abandonné. Voilà, Dieu nous a oubliés, il s'est occupé certainement d'autres personnes, et ce sentiment de faiblesse et de solitude, David l'a ressenti. À ce moment-là, David l'a expérimenté. Et merci Sonia de ce que tu as partagé. On comprend que les choses ne sont pas si simples que ça. Ce n'est pas si évident que cela, même si on nous a épargné les moments difficiles et on n'a entendu que les bons moments. On peut comprendre, on peut imaginer tous ces moments difficiles où il y a tellement d'embarras, il y a tellement de souffrance à l'intérieur. Mais j'aimerais vous dire 2 choses cet après-midi. Non, Dieu ne vous oubliera jamais. C'est la première chose. Et non, Dieu n'est pas ignorant de ce qui vous arrive. Ce sont 2 éléments à mettre ensemble. Ne les séparez pas. Ne dites pas « Dieu ne pense pas à moi, malgré qu'il voit très bien ce que je vis », ou alors « Dieu pense à moi, mais il ne doit pas savoir ce que je suis en train de vivre ». Non, non seulement il ne vous oublie pas, mais il sait exactement qu'est-ce qui se passe quand vous vous levez le matin, à quelle articulation vous avez mal, combien de cachets vous êtes obligé de prendre, combien de médecins et de rendez-vous vous avez pris. Il le sait, il connaît parfaitement les détails de votre vie. Et ça, c'est tout de même important de s'en souvenir. Alors, Dieu poursuit un but. Dieu poursuit un but, un véritable objectif. Ce n'est pas toujours le même que le nôtre, d'ailleurs. Si je vous demandais rapidement comme ça de me dire quelle est votre priorité, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez faire en 2017, je suis sûr qu'on aurait un panel incroyable. Entre celui qui dirait « je veux avoir un meilleur travail, je veux déménager, je veux gagner au loto, je veux changer de voiture, etc. » Bref, il y aurait tellement de choses, tellement de choses. Et puis certains diraient, objectivement, « j'aimerais bien mieux connaître Dieu. » Parce que pour un chrétien, c'est intéressant de mieux connaître son Créateur, de mieux connaître celui qui nous donne la vie. C'est tellement intéressant. Et si Dieu vous prenait au mot, si Dieu vous disait « tu veux mieux me connaître », ça c'est une bonne idée. Alors viens avec moi. Sauf qu'il va vous conduire dans un chemin un peu comme ça, où vous avez l'impression que ça se rétrécit, ça s'abaisse, c'est de plus en plus sombre, il y a des sentiments d'être troublé, un peu d'angoisse qui vous vient, et là vous allez dire non, je n'ai pas trop envie. Hein. Non, il n'y a pas une formation accélérée, on ne peut pas passer, hop, faire le pont et passer au-dessus. Quelquefois, il faut reconnaître que Dieu a des raisons qui peuvent nous échapper, hein, et Dieu a des raisons qui peuvent nous dépasser, mais reconnaître que Dieu dirige toutes choses pour mieux l'entendre, c'est important. Reconnaître pour voir, et peut-être voir autrement, voir à nouveau. Reconnaître finalement que la foi, c'est en premier lieu une source d'encouragement. Certains ont été guéris par la foi et d'autres ont supporté les épreuves par la même foi, comme on l'entendait tout à l'heure. L'Épître aux Hébreux nous en parle précisément dans un chapitre, le fameux chapitre 11. Certains n'ont jamais obtenu de délivrance sur la terre, mais ils avaient cru dans le même Dieu qui en avait sorti d'autres des tourments et des difficultés. La foi se fixera sur des promesses. J'aimerais cet après-midi que vous entendiez cette promesse que David nous fait entendre, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, car tu m'as fait du bien. » Malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il dit, malgré nos sentiments, malgré tout ce qu'il ressent, à ce moment-là de sa vie, à des moments particuliers, on pourrait se sentir abandonné, mais dans la réalité, dans la plénitude de la vie que nous menons, nous pouvons considérer la fidélité de Dieu. La foi, je crois qu'elle triomphera du doute cet après-midi. C'est étonnant comme notre langue française a fourché, comme les mots changent. Quand vous demandez à quelqu'un qui a passé un examen écrit, quelque chose, alors, ça a marché ? Je ne sais pas, hein ? Mais à ton avis, j'espère. Hein ? Quand on dit j'espère, c'est je ne suis pas très sûr. Hein ? C'est ça, hein ? Alors qu'en fait, quand on dit « j'espère », ça veut dire qu'on est complètement certain, bibliquement parlant. L'espérance, ça ne souffre d'aucun doute. Sauf que, ou alors à d'autres à qui vous poserez les mêmes questions, on vous dira « ben, je crois ». Ça veut dire peut-être ben oui. Tu connais l'expression ? Normand. Normal. Pas normand, normal. Une expression comme ça, « je crois ». Mais t'es sûr ? Pas vraiment, mais j'espère. Enfin, aujourd'hui, plus personne croit, plus personne est certain, plus personne est persuadé, alors que la Bible vous donne plein de promesses cet après-midi. Et je ne peux pas vous en donner beaucoup, parce que sinon, il faudrait s'arrêter sur toutes les pages de la Bible, et je pense que dans un petit moment, vous en aurez ras-le-bol. Mais on va s'arrêter sur quelques-unes. Dans un psaume, le 60, juste une référence comme ça, ne cherchez pas, je vais vous le lire. J'aime beaucoup cela. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est incroyable, ça. Hein ? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être aurait-on dû traduire Dieu fera des exploits en nous. Parce que nous, on n'est pas tellement capable de faire beaucoup d'exploits. Hein. À part se décourager, là, on est très fort. à part râler, alors là on est des champions, à part se plaindre, mais là c'est number one, hein, on est tout en haut de la liste. Hein. On est capable de faire des exploits, mais jamais dans le bon sens. Là, ce sont vraiment des exploits que Dieu est capable de faire. Et j'aimerais vraiment que vous soyez persuadés que Dieu ne vous a pas oublié. Vous avez vu dans ce psaume 13, plusieurs fois, l'expression revient « jusque à quand ?» Jusque à quand ? Jusque à quand ? On aurait pu traduire « pourquoi ?» Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu m'oublies ? Pourquoi tu me caches ta face ? Pourquoi j'ai des soucis dans mon âme ? Pourquoi j'ai du chagrin dans mon cœur ? Pourquoi mes ennemis s'élèvent contre moi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont se rire de moi ? Et pourquoi mon ennemi dira « je l'ai vaincu » ? Ce serait triste d'arriver à la fin de sa vie ou à la fin de cette réunion, de sortir de ce lieu dans 25 minutes en disant « je suis désespéré, je suis vaincu ». Ce serait triste, tellement triste. Alors, j'aimerais vous montrer que Dieu est capable d'aller au-delà de l'oubli, parce que l'oubli, c'est peut-être la chose la plus effroyable, quand on a l'impression d'être oublié. Oublié. On m'a oublié. Est-ce que vous avez déjà oublié vos enfants ? Non ? Ben, vous êtes fort, hein ? Non, on a oublié Gilliane. À moitié, hein ? À moitié, hein ? Elle était toute petite ? Elle était sage, on l'entendait jamais. Pareil aujourd'hui d'ailleurs, hein. On l'entendait jamais. Et à l'époque, dans l'église où on était, il y avait plein de bébés, il y avait plein de petits. Et donc, il y avait des garderies en semaine, il y avait des garderies dimanche, on faisait manger les petits, etc. Enfin, et c'était un soir, me semble-t-il, ou un dimanche peut-être, un dimanche après le culte, le temps de dire au revoir à tout le monde, etc. Tous ceux qui s'occupaient de la garderie avaient éteint les lumières, etc. Ils étaient tous partis, mais nous, on est souvent pris. Et dans le fond, à un moment donné, on se dit « mais elle est où ?» Et en fait, elle était tranquillement dans son transat. Transat, hein, en Corse, hein, quand même, hein, transat. Elle était dans son transat, dans le noir, et elle attendait qu'on vienne la chercher. Ça a duré 10 minutes, peut-être. Hein. Bah, elle n'était pas effrayée. Hein. Et un instant, vous êtes pris par l'un, par l'autre, et puis on oublie finalement, parce qu'on n'est pas à se dire « elle est où ? Elle est où ? Elle est où ?» Si vous êtes comme ça avec vos enfants, lâchez-les, oh. Lâchez-les. Hein. Voilà, ils sont où ? Qu'est-ce qu'ils font ? Non. Donc là, et au bout d'un moment, on dit « mais au fait !» Donc on avait oublié quelques instants, mais sans l'oublier. « Elle est où ?» Et tranquillement, elle attendait. Voilà, donc, bon, l'oubli, ça peut être beaucoup plus terrible chez des enfants plus grands. Vous avez vu, quand il y a des manifestations à Nice, notamment au moment du carnaval, on vous prévient toujours « tenez bien vos enfants avec la foule ». C'est vite fait qu'un enfant glisse entre deux grandes personnes et puis après. Mais quand vous vous promenez, que vous voyez un petit groupe et que vous voyez un enfant, même dans un grand magasin, il perd de vue ses parents. Mais ça dure quelques secondes. Vous sentez que le visage change de couleur, il se met à trembler, maman, papa, parce qu'il ne les a pas vus. Il a l'impression d'être oublié ou perdu ou abandonné. L'oubli, c'est terrible. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous a jamais oublié. Il ne vous abandonnera jamais. Faites-lui confiance, il sera toujours là. Le meilleur exemple que j'ai trouvé se trouve dans le livre de la Genèse. Un homme a vécu une drôle d'expérience. Il a été emprisonné pendant plus de 2 ans en espérant en sortir parce qu'il avait donné un bon tuyau pour quelqu'un qui allait en sortir. Et quand son colocataire de cellule va devoir sortir, il va lui dire « quand tu seras sorti, ne m'oublie pas !» Ben, le gars, il est sorti. Ciao. Il l'a oublié. 2 ans. 2 ans à croupir dans une cellule. Ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui, même si elles ne sont pas flambantes. C'était terrible à l'époque. Hein. Terrible. Cet homme s'appelle Joseph. Il a eu un destin assez particulier. Il a eu une vie très étonnante, une vie qu'on souhaiterait à personne, au moins dans les 20 premières années, ou dans les quelques premières années, mais je dirais au moins les 20 premières. Et puis ensuite, les 20 ou les, ouais, presque les 40 premières années de sa vie. Après, c'est sûr que le reste de sa vie a été fabuleux. On aimerait tous avoir des destins fabuleux. Ce n'est pas parce que pour avoir un destin fabuleux, il faut connaître une vie de misère, mais c'est le sort de tous les êtres humains d'avoir des galères, d'avoir des difficultés. Et lui, il en a connu aussi. Quand vous connaissez son histoire, elle commence au chapitre 37 de la Genèse. Et puis, il y a un tournant décisif au chapitre 39. Et c'est là ce qui nous intéresse. Comment va-t-il se retrouver en prison ? Il va être jeté en prison à cause de faux témoignages. Il travaille à l'époque dans une maison pour un patron. Et l'épouse du patron tombe amoureux de ce jeune homme. Il est tout jeune, il a 17, 18 ans, il est beau, comme un camion, tout beau. Voilà, elle tombe amoureuse, mais bon, elle est mariée, cette femme. Et plusieurs fois, elle va lui faire des avances, plusieurs fois, elle va essayer de le séduire. Mais lui, c'est un jeune garçon qui est très droit, très honnête. Et lui, ça ne rentre même pas dans sa tête de se dire « je vais coucher avec cette femme ». Même pas. Mais quelque part, c'est quelque chose de totalement impensable. Cette femme, elle est mariée. Lui, faire ça, c'est trahir son patron, c'est absolument impossible. Dites-moi franchement, c'est impossible. Ça devrait, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens, ils vous disent « ouais, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. » Il y a même des sites internet maintenant, exprès pour les relations extra-conjugales. Avant, c'était pour les célibataires. Maintenant, c'est trompez votre mari, trompez votre femme, cliquez là-dessus. On est dans un monde qui marche à l'envers. Ce garçon a des valeurs, ce garçon a une moralité, et lui, il ne veut pas. Et rendez-vous compte, il lui est arrivé, mais ce qui est totalement impensable. Même pas en rêve, quelqu'un aurait fait un film là-dessus. Cette femme, voyant que ça ne marcherait pas, eh bien, elle a piégé ce garçon, mais elle a voulu le briser totalement. Alors, elle, devant le fait qu'il refusait ses avances, elle lui a sauté dessus, et lui, il s'est échappé comme il a pu, sauf que pour réussir à s'échapper, il a dû laisser son manteau derrière. Et elle a déchiré ses vêtements, elle a hurlé, on est vite venu à son chevet, et elle a dit « Le jeune homme, l'esclave, Joseph, regarde, il y a son manteau, il a cherché à me violer. » Je ne vous dis pas le mari, il est devenu fou. Fou de colère. Il a attrapé le jeune qui n'a même pas eu le temps d'un procès, il n'a même pas eu le temps de se justifier et il a été jeté en prison. C'est un esclave, on ne fait pas confiance à ces gens-là. C'est un émigré, qui plus est, il a été acheté sur un marché d'esclaves, il a été vendu par sa propre famille, c'est un gars qui a des problèmes dans sa tête, il est nerveux, il ne doit pas tellement aimer telle et telle situation, il va se venger, il voudra se venger. Donc voilà, on va y aller, c'est terrible quand même. Parce que le résultat, c'est qu'il va se retrouver en prison. Et là, il est dit ceci, on va le lire ensemble. Genèse 40. Il nous est dit que deux compagnons de cellule vont se réveiller. L'un est chef des échansons, il est œnologue, et l'autre, chef des panetiers, il est boulanger. Tous les deux ont été emprisonnés parce que certainement que le service a été mal fait. Donc on les a jetés en prison. Et voilà que tous les deux se réveillent un matin un peu tracassés, ils ont fait un rêve. Chacun a fait un rêve différent. Et Joseph va expliquer le rêve à ces deux gars. Et il va dire à l'un, dans quelques jours, tu vas sortir de prison, mais malheureusement, le pharaon va te mettre à mort. Voilà l'explication de ton rêve. Et à l'autre, il lui dira, toi aussi, tu sortiras dans 3 jours, mais le pharaon va te rétablir dans ta fonction d'œnologue. Incroyable. C'est exactement ce qui va se passer. Sauf qu'avant de devoir quitter la prison, voilà ce que va dire Joseph, chapitre 40, verset 15. Verset 14. « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi, et il raconte son songe, et à lui on dira que ça ne marchera pas, qu'il mourra. » La Bible dit un peu plus loin, verset 20, « Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. » Et la phrase, la plus terrible, elle arrive maintenant. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Finalement, sa vie s'arrête là. Sa vie s'arrête là. Il l'oublia, point. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Quelquefois, on est tellement embarrassé, on est tellement dans les tourments et dans les difficultés que le chemin est pierreux, le chemin est parsemé d'épines ensanglantées, que c'est difficile. Comment réagir ? Comment remonter la pente ? Comment sortir de situations comme cela ? C'est terrible. La vie de Joseph, c'est déjà un drame, parce qu'il a été vendu par ses frères. Sa disparition a été un drame pour le papa, évidemment. Son absence, c'est une plaie béante pour le père, mais vous savez, on dit souvent que le temps aura raison des blessures. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. On peut les enfouir, on peut essayer de les oublier, mais il suffit d'un événement, il suffit d'une circonstance, et fuit, ça remonte. Faut pas croire, ça revient. À moins d'en être guéri, à moins d'en être parfaitement délivré. Sauf que ce n'est pas le cas de ce garçon. Je vous ai résumé, il est vendu, imaginez le sentiment d'abandon, vendu pour de l'argent. C'est votre frère. On ne l'a même pas abandonné devant un hôpital, bébé, non. Là, c'est dramatique. C'est un jeune homme, il est conscient. Et ses frères le vendent pour annoncer à leur père qu'il est certainement mort, tué par un animal sauvage, etc. Il arrive sur un marché d'esclaves, il tombe dans une maison qui n'est pas si mauvaise que cela, et il lui arrive ce coup terrible avec cette femme. On le jette en prison, il n'a rien fait pour aller en prison. Finalement, il prend soin de quelqu'un qui est en prison, qui sort, qui est rétabli, et il lui dit « J'ai rien fait pour être là, parle de moi au moins au Pharaon, qu'on se souvienne de moi, s'il te plaît. » Et ce gars dit « Oui, ne t'inquiète pas, dès que je suis dehors, je penserai à toi. » Et ce gars l'oublie. C'est terrible quand même, c'est terrible. Quand tous t'abandonneraient, quand ta mère t'abandonnerait, dit la Bible, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. On peut se sentir défait, on peut se sentir désolé à cause d'une situation comme cela, et on peut se poser la question, combien de temps, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il m'est arrivé tout ça ? Pourquoi je galère comme ça ? Pourquoi je ne m'en sors pas ? Combien de pourquoi ? On peut les aligner. Vous en avez dit des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. On les oublie, mais ils reviennent souvent. Alors, j'aimerais revenir à la deuxième partie parce que c'est le plus intéressant. Et finalement, avec Dieu, il y a toujours un rétablissement. Amen. Avec Dieu, il y a toujours un rétablissement. Ça va se passer d'une manière tout à fait incroyable. Et la réhabilitation, vous savez que c'est dans le plan de Dieu. Dieu veut rétablir tous les hommes, tous les hommes. Certains ont travaillé pendant des dizaines d'années à rétablir l'honneur d'un homme accusé injustement. L'affaire Dreyfus, par exemple. Pendant des dizaines d'années, on a voulu rétablir l'intégrité de cet homme et on sait très bien que certains n'ont été graciés après avoir été jugés, mais ça leur suffira jamais. Ils veulent un procès en réhabilitation. Ça suffit pas de dire « Vous me graciez, vous m'avez condamné ». Ça veut pas dire que si je suis dehors, que je n'ai pas été condamné. Enlevez-moi la condamnation. Et Dieu veut vous enlever votre condamnation. C'est ça le plus important. Il ne veut pas vous dire « Demain, ça ira mieux, je vais t'aider, je vais te donner un coup de pouce, je vais te donner un coup de main, ne t'inquiète pas, les choses vont changer. » Il veut enlever la condamnation. C'est ça le plus important. Et Joseph va être rétabli d'une manière incroyable. Alors qu'il est toujours en prison, ses 2 ans sont passés, il nous est dit qu'à un moment particulier, comme quoi, il n'y a jamais de moment très particulier, il n'y a que des temps que Dieu choisit lui-même. À un moment, ce pharaon va être troublé par des songes, lui aussi, par des rêves. Et alors qu'il en parle aux uns aux autres, tout d'un coup, le fameux œnologue, le chef des échansons, il se souvient. Il dit « Hey, pharaon, je voudrais te faire part et je voudrais te demander pardon. » Il va le dire comme ça. « Je voudrais te demander pardon et je voudrais rappeler ma faute. » Quelle faute ? Tu te souviens, il y a quelques années, tu m'as jeté en prison parce que tu m'avais accusé. Oui, je me souviens très bien. Tu te souviens que j'ai été sorti de prison et que tu m'as rétabli. Oui, eh bien, ma faute, ce n'était pas d'avoir fait quelque chose que je n'avais pas fait. Ma faute, c'est d'avoir oublié de te parler de quelqu'un. J'ai oublié de te parler d'un gars qui est en prison, qui s'appelle Joseph, et qui m'a dit exactement ce qui allait m'arriver. Et il m'a dit que lui, il était en prison, et qu'il y était pour rien, qu'il n'avait rien fait de mal. Et puis, il va surtout dire au Pharaon, il m'a expliqué mon rêve. Ça va intéresser Pharaon. Et comme quoi, hein, des fois, on pense que Dieu devra nous sortir de la difficulté par la gauche, et il décide de le faire par la droite. Je ne sais pas pourquoi. De cette manière-là, ben non, ce sera comme ça. Et le Pharaon va faire sortir cet homme, il va le présenter, on va l'amener hein, pour qu'il soit présenté. D'ailleurs, c'est assez curieux, ils vont le sortir de prison, et il nous est dit qu'ils vont, avant de l'emmener auprès du Pharaon, ils vont lui faire prendre une douche ou un bain, ils vont le raser, ils vont lui changer ses vêtements. Bref, quand il va voir arriver ce gars, il se dit, ben, si tout le monde est traité comme ça en prison, c'est pas mal quand même. Voilà, il est tout beau. Finalement, il est tout neuf. Ça y est, sa vie vient de basculer. Vous voulez que je vous dise, votre vie, elle peut basculer là en 30 secondes. Franchement, en 30 secondes. Vous pouvez passer de l'enfer au paradis. Pas au sens figuré, ni au sens figuré, pas au sens propre. Vous pouvez passer de la mort à la vie. Il peut se passer quelque chose de révolutionnaire au-dedans de vous. Et vous avez remarqué comme c'est difficile de se changer la tête, de se changer à l'intérieur. On essaye, on voudrait s'améliorer, on voudrait être meilleur, on n'y arrive pas. Vous avez remarqué comme c'est difficile de réparer une voiture en panne quand on n'est pas mécano ? Vous pouvez rester des heures devant la voiture, elle ne redémarrera jamais. On n'a pas les pièces de rechange, on ne sait pas faire. Et souvent on veut s'améliorer, on veut changer, on n'a pas les pièces de rechange et on ne sait pas faire. Sauf que Dieu a tout dans ses mains. Pour tout changer et tout réparer. Cet homme va se retrouver devant le Pharaon, qui va lui expliquer ses rêves, et Joseph va tout lui expliquer. Il va lui dire, écoute, tu vas avoir 7 années d'abondance, mais extrême abondance. Fais des réserves, mets de côté, construis des greniers, méfie-toi, parce que les 7 années qui arriveront après cela, ce seront des années de famine, terrible famine. Et parce que tu as fait des réserves, tu ne mourras pas. Ça a tellement plu au Pharaon. Vous savez ce qu'il a fait ? Il l'a nommé Premier ministre, quasiment. Surintendant de tous les trésors, finalement, à ce moment-là, de l'Égypte, il devait gérer un petit peu ces 7 années d'abondance avant les 7 années de crise. Bref, 2 ans de galère et puis une délivrance incroyable. 2 ans sont passés, c'est toujours trop long, c'est toujours très long. La Bible dit que ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Ce n'est pas son commencement. Il faut quand même reconnaître que des fois, ça a franchement mal commencé. Heureusement qu'on ne reste pas là-dessus. Mais des fois, c'est difficile de faire autrement. Je me souviens de cette histoire biblique où, lors d'une invasion, il y avait une guerre civile, une nourrice a pris un enfant, tout bébé, elle l'a embarqué pour sauver l'enfant, et l'enfant a fait une mauvaise chute. Il est devenu perclus des pieds. Une mauvaise chute. Et il a été handicapé toute sa vie, ce pauvre garçon. Et quelques temps plus tard, il apprendra que, d'ailleurs, le camp ennemi cherchait à savoir s'il restait des descendants de la famille de Saül. Et quand il a appris ça, un peu de peur et de crainte l'a saisi en disant « Mais si on me court derrière, je ne peux même pas m'échapper. Je suis livré à la mort. » Sauf qu'il n'avait pas prévu que son ennemi deviendrait son ami et que le roi David dira « Restera-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Et il ordonnera qu'on aille chercher ce fameux Méphibosheth, et il a mangé tous les jours à la table du roi. Donc des fois, ça commence mal, hein, mais ça finit tellement bien. Et avec Dieu, ce n'est pas des fois, c'est tout le temps que ça peut mal commencer et que ça peut bien finir. Alors, le choix dépend de vous, bien évidemment, comme il pouvait dépendre de Joseph aussi. Joseph avait décidé d'être intègre, Joseph avait décidé d'être droit devant Dieu, et tout ce qu'il fera, c'était devant Dieu, devant les hommes, mais devant Dieu. Ce qui comptait, c'était l'aval des hommes avant l'aval des hommes. Ce qui était le plus important, c'était de plaire à Dieu. Et si cela pouvait faire en sorte qu'il soit une bénédiction pour ses semblables, ça pouvait réjouir son cœur. Il a été élevé, il aura une vie fabuleuse, et jusqu'à la fin de la Genèse, on parlera de Joseph. D'ailleurs, c'est dans ce pays d'Égypte que des enfants vont lui naître. Il nous est dit qu'il s'est marié sur place et qu'il aura 2 enfants. 2 enfants. À l'un, il donnera le nom de Manassé, et à l'autre, il donnera le nom d'Éphraïm. Quand vous connaissez l'explication de ces noms propres, Manassé, ça signifie « oublier ». Je dois oublier mon passé. Il faut que j'oublie mon pays. Je suis en Égypte maintenant, ma famille doit croire que je suis mort depuis longtemps. Alors j'ai besoin d'oublier mes peines. Mais il dira ceci, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. » Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père, la cicatrice. Et certainement là, mais elle a été apaisée. Et puis Éphraïm signifie être fécond, c'est-à-dire que d'un côté, il a été appauvri malgré lui, mais d'un autre côté, Dieu l'a enrichi. Et voyez-vous, le plus important c'est cela, c'est pas que vous vous enrichissiez sur la terre, c'est que Dieu vous enrichisse. Le plus important c'est pas de dire j'ai tout perdu ici-bas, c'est qu'avez-vous trouvé en Dieu ? Qu'est-ce que Dieu peut vous donner ? Qu'est-ce que Dieu peut vous offrir ? Cet homme a tout eu, il a été comblé, et cerise sur le gâteau, parce qu'avec Dieu, les situations qui se terminent en queue de poisson, ça n'existe pas. Il nous est dit que la famine, je vous en ai parlé, elle a tellement sévi que ses propres parents, ses propres frères, sont venus auprès de lui chercher des provisions. Dites, je ne suis pas sûr que Spielberg il aurait trouvé un meilleur scénario. Et quand il va voir ses frères, vous imaginez, il s'est passé pratiquement 20 ans. 20 ans, c'est énorme, pratiquement 20 ans, incroyable. Choses fabuleuses vont se passer et il va y avoir une réconciliation incroyable. Et la vie se terminera où Joseph sera accompagné et entouré de son père, sa mère n'est plus là, mais de son père et de tous ses frères. Il a recueilli toute sa famille. Vous aviez prévu de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas un ennemi qu'il faut chercher autour de vous, mais sachez que le diable a prévu de vous faire du mal. Mais sachez que Dieu a décidé de vous faire du bien. Amen. Dieu a décidé de vous faire du bien. Alors la vie de cet homme nous montre que Dieu n'oublie jamais personne. David dira, « Jusque à quand serai-je oublié ? Jusque à quand souffrirai-je ? Jusque à quand resterai-je dans la détresse ? M'oublieras-tu sans cesse ? Aurais-je des soucis dans mon âme ? Cacheras-tu ta face ? Des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi ? Je ne veux pas m'endormir du sommeil de la mort. Et je ne veux pas entendre mon ennemi me dire « Je l'ai vaincu ». Je ne veux pas entendre ça. Non, je ne veux pas que mon adversaire se réjouisse à mon sujet quand je tombe. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et je chante à l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Amen. On va prier pendant quelques instants. Voulez-vous vous incliner avec moi ? Fermez vos yeux, baissez vos fronts. Nous allons invoquer Dieu, nous allons lui demander sa bénédiction, nous allons lui demander son aide, nous allons lui demander sa grâce, son secours. Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu abondant et riche pour ses enfants. Je veux prier pour vous qui avez besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu parler de l'Évangile, mais je vous rappellerai quand même que lorsque Jésus meurt à la croix, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà une parole qui a fait couler beaucoup d'encre, sur lesquelles beaucoup de théologiens, de discoureurs se sont penchés pour comprendre le sens, comme s'il apparaissait que c'était là une énigme. Mais j'aimerais vous dire que Jésus qui meurt à la croix prend votre place. C'est comme si chacun d'entre nous étions crucifiés, mais nous l'étions pour nos fautes, tandis que Jésus, le juste, n'avait jamais péché. Jamais, jamais, jamais. Il a décidé de prendre la condamnation qui nous incombait, la condamnation qui reposait sur notre tête. Il a décidé de la prendre sur son compte. Alors, on comprend, bien évidemment, que Dieu se détourne de la faute et du péché parce qu'il l'a condamné, mais on se réjouit d'entendre Jésus dire enfin, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous n'avez rien à craindre si Dieu veille sur vous. Vous n'avez rien à craindre si Dieu s'occupe de vous. Et vous n'avez rien à craindre aujourd'hui parce que Jésus a payé le prix, il a tout accompli. Aujourd'hui, tout est payé, tout est fait. Vous n'avez qu'à dire, « Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, viens habiter mon âme. Seigneur, viens toucher mon cœur. Je veux te suivre, je veux marcher dans tes voies, je veux être agréable, je veux te plaire, je veux continuer à vivre par ta grâce et avec toi. » Si vous faites cette prière, jamais plus, Vous ne direz « Je suis abandonné », jamais plus. Vous n'aurez ce sentiment d'oubli, jamais plus. Vous ne direz « Mais combien de temps, pourquoi faut-il que je souffre ainsi ?» Et la délivrance arrive, la délivrance s'approche. Je vous ferai remarquer que Joseph n'a pas été laissé dans une semi-liberté, il n'a pas été laissé dans une semi-guérison, non, il a été totalement délivré, totalement guéri, totalement béni. Je vous ferai remarquer que Joseph a été totalement transporté ailleurs, dans un autre monde en quelque sorte, dans un autre univers. Après la prison, après l'esclavage, il s'est retrouvé maître, maître de sa vie, maître de ses choix, parce qu'il avait un maître au-dessus de lui, son Dieu, le Créateur, qui avait décidé de le bénir. Alors on va prier pour vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, et on va lui demander à ce Dieu-là de vous bénir et de vous faire du bien. Seigneur, nous venons devant toi, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta bénédiction. Croyons en ta puissance, nous croyons en ta bonté, nous croyons en ta grâce, et nous croyons que tu es le libérateur. Te demandons d'étendre ta main, et nous te demandons d'agir sur un cœur assoiffé de vérité, assoiffé de justice, assoiffé de guérison, assoiffé de liberté, assoiffé de paix. Que les douleurs cessent moralement, physiquement, quelles que soient les douleurs, que toutes les douleurs partent maintenant. Nous avons entendu tout à l'heure que le temps des miracles n'était pas passé. Et cela, nous le croyons. Et nous l'avons déjà entendu. Et que ça fait du bien de l'entendre encore. Alors continue ton œuvre et bénis celui ou celle qui est malade dans ce lieu jusqu'à une totale et parfaite guérison. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous te remercions pour ta bonté. Amen. J'aimerais qu'on reste dans le recueillement pendant qu'on va chanter un cantique. J'aimerais qu'on reste la tête baissée, les yeux fermés, si vous le voulez. Et on va...